Il y a des gens qui usent de leur corps comme s'il s'agissait d'un sac plastique jetable. D'autres portent leur corps comme si c'était une porcelaine chinoise de la dynastie Ming. Il y a des gens qui ne sont pas traités comme des citoyens parce que leurs jambes ne peuvent pas marcher. Il y a des gens qui vivent pour transformer leur corps en celui de Pamela Anderson. D'autres pour réussir à se fabriquer le corps de Jean-Claude Van Damme. Et d'autres qui ont deux chihuahuas qu'ils appellent Pamela et Jean-Claude. Certains portent leur corps comme un vulgaire manteau de peau et d'autres comme si c'était une combinaison transparente. Il y en a qui s'habillent pour être nus et d'autres qui se déshabillent pour rester cachés. Paul B. Preciado est notre invité à l'occasion de la publication de son livre intitulé « Un appartement sur Uranus ». Et comme chaque soir, on commence en musique avec Ezra Furman.
You know I love you so bad. I don't believe in love. You know I love you so bad. So bad, you know I love you so bad. Like the kid in the back of the classroom who can't do the math 'cause he can't see the blackboard. So bad, you know I love you so bad.
Combien de fois êtes-vous né, Paul B. Preciado ?
Je peux dire, dans mon cas, peut-être de manière littérale, deux fois, c'est vrai. La première fois, en fait, je suis né dans une ville du nord de l'Espagne, en fait. Et voilà, j'ai été assigné sexe féminin à la naissance. Et la deuxième fois, on va dire en fait que tout un processus administratif a été orchestré et mis en place par la loi pour refaire un acte de naissance. Et voilà que ma nouvelle naissance a été annoncée le 16 novembre 2016 dans un journal aussi de l'Espagne, en fait, du nord de l'Espagne, puisqu'en fait, cet acte de naissance doit être publié dans la même ville dans laquelle la personne est née à l'origine. Et donc, c'est ma mère qui a vu cet acte de naissance pour la première fois, puisque je ne le savais pas. C'est-à-dire, mon avocate et moi, on attendait avoir des nouvelles du juge par rapport au changement de sexe. Et c'est ma mère qui m'a appelé et m'a dit écoute, dis-moi que je ne suis pas folle. En fait, je suis en train de regarder les naissances et les morts de la journée et je retrouve ton nom. Donc, Paul Béatrice Preciado, c'est mon nom, mon nouveau nom, on va dire. Voilà, parmi les nouveaux-nés. Donc, je me suis retrouvé, et mon nom s'est retrouvé ce jour-là parmi les nouveaux-nés. Et c'est vrai que c'était quelque chose d'assez exceptionnel, en fait. En même temps, c'était un moment de politique fiction extraordinaire. Et un moment aussi des jouissances étranges, puisque partagé avec ma mère. C'est-à-dire que des coups, en fait, c'était elle m'appelait pour me dire, en fait, tu es né. Et c'était assez magique.
Quand vous êtes né la première fois, vous appeliez Béatrice, vous avez été élevée dans un milieu catholique.
Très catholique.
En Espagne.
Oui.
Et à l'âge de 7 ans, quand la maîtresse de l'école vous demandait d'imaginer une famille, vous dessiniez quoi?
Bon, j'ai dessiné justement moi avec une copine de l'époque, hein, et avec plein des animaux. Voilà, j'ai imaginé que c'était possible en fait de vivre avec une fille, hein, et d'avoir plein des animaux, et que c'était une famille en fait comme une autre.
Voilà. Et comment vos parents ont réagi par rapport à cette attirance vis-à-vis des filles si jeunes?
Mes parents, en fait, la question c'est que c'est pas tellement mes parents qui ont réagi immédiatement, c'est plutôt l'institution école qui a quand même alerté mes parents pour dire effectivement votre fille ne va pas bien en fait, elle est malade en fait, elle est dysfonctionnelle. Qu'est-ce que vous faites à la maison? Pourquoi elle est comme ça? Et c'est comme ça en fait que je me suis retrouvé pour la première fois chez un psychologue. Pour un diagnostic, effectivement, soit d'homosexualité, en fait, ou des dysphories de genre, en fait, parce qu'évidemment, après, les questions sont, mais pourquoi est-ce que vous vous identifiez en tant que garçon, etc.
Et ensuite, vous avez décidé de rester dans votre univers, dans votre puissance de votre désir, et vous avez échappé à vos parents. C'est la raison pour laquelle vous avez décidé de venir faire de la philosophie en France.
En réalité, c'est vrai que j'ai su que je pouvais pas rester en Espagne, que je ne pourrais pas rester, en fait, surtout pas dans la ville de mes parents, surtout pas chez mes parents, c'était vrai, c'était impossible. Mais je suis parti tout d'abord, en fait, aux États-Unis. Parce qu'en fait, voilà, j'ai essayé par tous les moyens. Donc, j'ai fait un concours de philo, j'ai passé, en fait, avoir des bourses, en fait, pour partir. Et je suis vraiment, enfin, pour moi, c'était vraiment un exil sexuel. Je voulais absolument échapper au contrôle de la sexualité et du genre, en fait, qui régnait. Évidemment dans ma maison, mais aussi dans ma ville et aussi dans les institutions de production des connaissances, aussi à l'université en Espagne. Donc je suis parti aux États-Unis et effectivement je suis allé vivre à New York et à étudier au New School for Social Research. Et évidemment, voilà, c'était comme arriver dans un autre monde, effectivement.
Tout à l'heure, j'ai lu une page qui figure dans ce nouveau livre qui sort de vous. Je rappelle qu'il y a eu deux autres livres qui étaient signés Béatrice Preciado. Ce nouveau s'intitule et est signé Paul B. Preciado, un appartement sur Uranus. Donc vous avez changé d'identité, comme vous venez de le dire. Mais on a l'impression aussi que vous avez changé de corps. Et puisque vous parlez si bien du corps, pourriez-vous décrire votre corps au moment même où vous parlez?
Maintenant?
Oui.
La question, c'est que pour moi, les corps n'est pas du tout en fait un objet. Et encore moins un objet biologique. Donc mon corps, c'est aussi, il est fait d'une multiplicité de représentations. Et c'est aussi, en fait, justement, un ensemble des fictions. C'est pour ça que je parle de corps, en fait, comme d'une somathèque, d'une archive politique vivante. Et donc, pour moi, mon corps, c'est pas simplement cet objet, apparemment, cet objet-là que vous voyez en face de vous, en fait. C'est quelque chose d'autre.
C'est un sujet, votre corps. Un sujet pensant.
C'est, en tout cas, il essaye de devenir sujet politique. Parce qu'en fait, c'est ça les problèmes. Les problèmes, c'est que nos sociétés ne considèrent pas les corps en tant que sujet politique. Nos corps, c'est uniquement la raison qui est pensée en tant que considérée historiquement en tant qu'un sujet politique. Mais les corps est pensé uniquement en tant que force de travail, en tant que lieu de la reproduction sexuelle, mais absolument pas en tant que sujet, véritable sujet politique. Dans ce sens-là, effectivement, oui, j'ai voulu en fait, quelque part, construire mon corps aussi en tant que fiction politique, le construire comme une véritable, voilà, le fabriquer comme une espèce de machine révolutionnaire.
Il y a une expression en français qui dit « habiter son corps ». Est-ce que vous habitez votre corps aujourd'hui ?
J'habite plusieurs, je dirais plusieurs fictions de moi-même, et parfois je n'arrive pas à habiter véritablement mon corps. Puisque justement, ce que j'ai compris en fait en acceptant de me déclarer finalement en tant que dysphorique de genre pour avoir accès à l'identité politique, à la citoyenneté, parce qu'en fait ce qui est arrivé tout simplement c'est que à partir du moment en fait où je commençais à prendre la testostérone en dose élevée, les transformations de mon corps ont fait qu'évidemment il y avait un désaccord total entre mes papiers d'identité, mon document d'identité et mon corps. La représentation en fait visible de mon corps en société. Donc évidemment, pour commencer à traverser les frontières, pour commencer à encore à devenir sujet et citoyen, j'ai dû accepter face à l'État de me déclarer en tant que dysphorique de genre et de demander donc un changement de genre légal et donc des noms légaux. Donc voilà. Donc je suis dans cette paradoxe et cette contradiction.
Dans votre livre précédent qui s'intitulait « Testo Junkie, sexe, drogue et biopolitique » que vous avez signé Béatrice Preciado, vous expliquez un peu sur le ton de la plaisanterie ou en tout cas comme d'un jeu ludique avec vous-même que vous commencez à prendre de la testostérone comme pour voir ce que ça va faire quoi à l'intérieur de votre organisme.
Absolument.
Mais on a l'impression à ce moment-là, c'était il y a quelques années, que c'était quelque chose qui était d'ordre philosophique pour essayer de mieux vous comprendre vous-même, de comprendre votre rapport avec votre corps, avec cette identité féminine dont vous avez hérité à votre première naissance légale, mais que c'était pas forcément une volonté d'aller jusqu'au bout. Or, on s'aperçoit aujourd'hui, puisque vous avez changé de sexe, changé de nom, que c'était une volonté de traverser. Quel type de traversée avez-vous voulu envisager, Paul Preciado?
En fait, effectivement, vous avez raison, je pense que j'ai voulu faire une expérience politique et philosophique. Et que j'ai voulu, en fait, quelque part, transformer mon corps en lieu d'expérimentation politique. Et à ce moment-là, je pense de toute façon, personne en fait qui va prendre la testostérone ou l'estrogène, la progestérone pour soi-disant changer de genre, personne ne peut dire en fait que c'est exactement ce qui va arriver. Votre médecin ne le sait pas. Moi, c'était mes collègues, mes copains, mes amis qui étaient en train de prendre la testostérone aussi, qui étaient les plus à même en fait à m'indiquer qu'est-ce qui allait m'arriver. Donc, il y a vraiment un processus d'expérimentation. Donc, du coup, c'est très semblable en fait à quand vous allez prendre par exemple la ayahuasca ou une substance.
C'est quoi ?
La ayahuasca ?
Oui.
Donc vraiment, enfin les peyotes, la ayahuasca, les substances,
pardon.
Voilà. Non, mais il y a pas de quoi. En fait, en tout cas, voilà les plantes. C'est-à-dire, moi, ce qui m'intéressait, c'était cet agencement inattendu avec une substance. Parce que le problème, c'est qu'on construit de toute façon la subjectivité avec tout un ensemble de substances. On est constamment en train de métaboliser
oui,
des substances.
Oui, mais ça disparaît de votre corps après un certain nombre d'heures.
Ou pas.
Tandis que la testostérone, ben, ça modifie l'attitude corporelle.
Non, parce qu'en fait, beaucoup des substances avec lesquelles justement on fabrique notre subjectivité, ils vont avoir un impact très important sur notre corps. Donc par exemple, en fait, évidemment, tout le monde connaît, les Prozac, en fait, qui a été vraiment, voilà, quelque part, une des substances déterminantes des, je dirais, en fait, du capitalisme néolibéral. On ne peut pas comprendre la subjectivité contemporaine sans penser justement à la gestion pharmacologique de la dépression. Donc, voilà, il n'y a pas que la testostérone. Moi, je pense qu'on est dans cette fabrication que j'appelle pharmacopornographique de la subjectivité et qu'on est tous en rapport avec des substances, c'est-à-dire avec des entités, des molécules, parfois organiques, parfois inorganiques, qui vont transformer notre subjectivité.
Vous êtes un contempteur de la société contemporaine et de ses formes diverses de domination. Vous vous inscrivez dans le courant de Michel Foucault, qui, il y a maintenant plus de 40 ans, a écrit des choses fondamentales pour comprendre notre manière d'être domestiqué qui passe effectivement d'abord par la sexualité. Je vous propose de l'écouter. Il va parler de l'évolution de la sexualité. C'est une archive INA du 6 janvier 1977.
Il semble bien que depuis un certain nombre de semaines, de mois, un mouvement en sens inverse est en train de se dessiner. Mouvement qui est inquiétant, d'abord parce qu'il ne se produit pas simplement en France. Dans d'autres pays, on peut le constater. Regardez ce qui se passe par exemple aux États-Unis avec la campagne que Anita Bryan a menée contre les homosexuels, allant même jusqu'à quelque chose qui frise l'appel au meurtre. C'est un phénomène que l'on peut constater en France. Et en France, on le constate à travers un certain nombre de faits particuliers, ponctuels, mais qui semblent indiquer que d'une part, dans la pratique policière, et d'autre part, dans la jurisprudence, on en revient actuellement à des positions fermes, des positions dures, des positions strictes. Et ce mouvement que l'on constate dans la législation, eh bien, il est malheureusement appuyé bien souvent par des campagnes de presse ou par un système d'information donné dans la presse qui incite à un retour vers une pratique du contrôle sexuel beaucoup plus strict que celui vers lequel on semblait aller au cours de ces dernières années.
Alors cette archive date de 1977. Les propos de Michel Foucault paraissent ô combien contemporains. Des choses ont quand même avancé à l'intérieur de nos mentalités, même juridiquement, des choses très très importantes que nous avons vécues et que nous sommes contents d'avoir vécues de notre vivant. Par exemple, le mariage pour tous en Espagne, bien avant chez nous en France.
Ouais.
J'ai l'impression, mais peut-être suis-je optimiste, Paul B. Preciado, que la possibilité d'accepter toute forme différente de sexualité, autre que l'hétérosexualité, a énormément progressé depuis que Michel Foucault parlait. Mais en même temps, peut-être je me trompe, hein.
Non,
il y a encore des blocs.
Oui, je pense qu'il y a des blocs réactionnaires très forts qui justement réagissent encore plus violemment parce qu'il y a un ensemble des micro-révolutions ou des révolutions micro-politiques, on pourrait dire, en fait, qui sont à l'œuvre. Et qui sont à l'œuvre bien, en fait, je dirais, bien avant même que Foucault commence à parler. Je dirais qu'ils sont à l'œuvre depuis la révolution d'Haïti, depuis la révolution d'esclaves. Il y a tout un mouvement anti, des fonds très très profonds en fait, anti-colonial et anti-patriarcal en fait. Mais ces mouvements, évidemment, c'est une histoire longue. Parce que, évidemment, on ne va pas finir en fait avec les patriarcats, ni avec, on ne va pas changer des modes des productions et des reproductions, c'est-à-dire ni les capitalismes, ni les patriarcats, ni la raison coloniale, on ne va pas les abattre en fait en 25 ans. C'est impossible en fait. C'est un processus, c'est une lutte extrêmement longue. Et évidemment, on voit encore aujourd'hui effectivement un mouvement qu'on pourrait appeler contre-révolutionnaire, qui, je pense, est encore plus fort qu'au moment où Foucault parle. Même si, effectivement, par exemple, l'homosexualité a été dépathologisée ou dépénalisée, décriminalisée en 75, en France, par exemple. Et donc, je pense que c'était un moment peut-être semblable quelque part en fait à celui-là qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire des moments où effectivement il y a une transformation profonde des lois, des normes sociales, hein, des conventions sociales, et donc des coups, une réaction néo-patriarcale, ce que j'appelle en fait les techno-patriarcats, puisque c'est un patriarcat de tout, qui a pris une toute nouvelle forme, en fait, qui travaille plus du tout avec les mêmes institutions qui est dans le 19e siècle. C'est-à-dire qu'évidemment, l'hétérosexualité est un régime politique et pas du tout en fait une pratique sexuelle, mais elle travaille avec des nouvelles technologies. Ces nouvelles technologies sont beaucoup plus sophistiquées que l'école, la prison, l'asile, etc. Maintenant, c'est des technologies, des nanotechnologies, des biotechnologies, et donc du coup, les technologies des pouvoirs se font passer par nature. Ils sont la forme de la nature. Ils prennent la forme de la nature. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus complexe de lutter contre elles. Parce que, quelque part, c'était facile. Enfin, je ne dis pas que c'était facile, mais il y avait, en fait, du sens à lutter, par exemple, en fait, contre la prison, ou à lutter contre l'école, ou contre l'institution mariage, ou contre la famille, etc. Évidemment, maintenant, il faudrait lutter, en fait, contre des formes spécifiques, des soumissions pharmacologiques, des soumissions biotechnologiques, des soumissions cybernétiques, etc. Donc les formes aussi de la lutte doivent changer.
Ce qui est impressionnant dans vos écrits, Paul B. Preciado, c'est que vous vivez ce que vous pensez. Et
pas totalement, il ne faut pas exagérer non plus. C'est-à-dire que ma condition est quand même... j'espère... parfois j'avais soin d'écrire quelque chose en fait, pour pouvoir la vivre. C'est ce qui m'est arrivé en fait avec les Soyonki. J'ai eu besoin en fait d'écrire ces livres pour être capable en fait de me lancer dans une véritable transformation de mon corps. Mais parfois, je suis absolument pas du tout à l'auteur mes célébrations politiques et philosophiques. Hein. C'est-à-dire que j'y reste quand même, je suis un animal incarné. Parfois, je voudrais bien en fait pouvoir justement aller beaucoup plus loin dans l'expérimentation, y compris dans la sexualité, y compris dans l'amour, dans les désirs, dans la transformation de mon propre désir. Mais bon, voilà. Mais j'essaye.
Nous avons demandé à Virginie Despentes, qui a préfacé votre nouvel ouvrage, de parler de vous et peut-être vous allez voir de vous poser une question.
Dans son cas, c'est vrai que c'est pas une transition au sens je veux devenir un homme comme n'importe quel autre homme, c'est je veux devenir encore autre chose, et on sent bien dans ce qu'il est, dans ce qu'il a été, et dans ce qu'il écrit que ça s'arrêtera pas à un moment donné. Il va pas trouver un genre qui lui convient. C'est quelque chose qui est vraiment en voyage, en mutation tout le temps, et qui est totalement modulable. Il veut pas d'un genre, il veut vraiment pouvoir sortir de ces catégories parce qu'il les trouve pauvres ou parce qu'il sent à l'usage qu'elles ne correspondent pas à quelque chose qui peut lui être utile, ni à lui ni aux autres. Et ce qui est intéressant, c'est le fait à ce moment-là d'être en pratique, de le vivre dans sa vie, de l'avoir toujours vécu, de continuer à le vivre d'une autre façon, d'être en rapport avec des gens qui le vivent également, et de prendre la politique comme ça, comme une transformation, une transition constante. On n'arrive pas quelque part, on va de transformation en transformation, et je crois que c'est assez intéressant. Enfin, je suis sûr, moi, de trouver ça intéressant dans son travail, dans sa façon de... Parce que quand on lit c'est écrit depuis le début, c'est vraiment toujours cette autre chose, cet ailleurs et cette transformation qu'il est en train de chercher, et aussi une pratique effective dans sa vie qui ressemble à ses désirs politiques. Parce que lui, en l'espèce, il habite une transition, il la vit, il la provoque, mais de toute façon, on est tous tout le temps en transition. On est en transition vers de la vieillesse, quoi qu'il arrive, dans le meilleur des cas, sinon c'est vers de la mort. Et de toute façon, la personne de 60 ans qu'on est aura très peu de rapport avec la personne de 20 ans qu'on a été. Et ça pose dans l'écriture aussi. Donc son écriture, elle change, mais elle change... Faudrait être un écrivain à machine pour qu'elle bouge pas. Et encore, un écrivain machine, j'imagine, bougera aussi. Mais sinon, du moment qu'on est dans des histoires de mettre en forme par écrit, on change. On change, l'auteur change, et en plus, les projets changent, l'écriture aussi, non ? Chaque fois qu'il a entrepris un livre, c'est toujours un livre sur la transformation, la révolution de la transformation. Peut-être que Paul pourrait nous dire un peu s'il se sent bien dans son appartement sur Uranus.
Oui, c'est le titre de votre livre, Paul B. Preciado, Un appartement sur Uranus. Vous n'habitez pas vraiment la Terre, puisque vous habitez Uranus. Est-ce que vous vous sentez bien dans votre appartement d'Uranus?
Oui, je me sens assez bien, en fait. C'est vrai que je sais pas si je peux dire, en fait, que je suis heureux, selon les catégories de la psychologie du moins, en fait, comme ça, de la personnalité. Mais à ma manière. Donc je pense que pour moi, les bonheurs, c'est la possibilité justement de transformer mon désir, d'inventer la liberté, d'imaginer autre chose. Et voilà, oui. Mais ma mère me dit toujours, en fait, oui, c'est beau d'avoir un appartement sur Uranus, mais ce serait mieux d'avoir un appartement sur Terre. Et donc voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire.
Mais sur Terre, vous en avez plusieurs, vous êtes un éternel... voyageur, il semblerait que dans les différentes villes où vous avez travaillé, vous avez vécu, en ce moment même vous vivez à Athènes, je crois, eh bien vous ne voulez pas de meubles, vous ne voulez pas d'objets, vous voulez être dans un état de dénuement et de solitude absolue.
Maintenant, je viens de déménager il n'y a pas longtemps à Paris, parce qu'en fait j'ai fini en fait les projets qu'ils étaient en train de faire à Athènes. Mais c'est vrai qu'à Athènes, pendant presque 300, j'ai habité dans un appartement qui n'avait pas des meubles, et j'ai trouvé justement, encore une fois, la fabrication de la liberté. Puisque ça m'intéresse beaucoup, en fait, ces rapports entre les corps et l'espace. Qu'est-ce qui se passe quand c'est les corps lui-même qui doit inventer la manière dans laquelle il va s'asseoir, les rapports, y compris avec l'écriture. Moi, souvent, je vais avoir besoin d'une table, mais pour poser mes livres, en fait, pour écrire et tout. Mais sinon, pour le reste, en fait, à peu près, je peux vivre... Au jour d'aujourd'hui, je pense que je me suis habitué, à force de voyager et à force de choisir qu'est-ce qu'on va mettre dans une valise quand on voyage. Et voilà, oui, je peux vivre avec très peu.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Paul B. Preciado, Mickey Blanco, L'Honneur.
Shorty feeling low, out of my zone, I'm on my phone, emotions can't control. I take a walk, I take a stroll, I can't be going home. I cause a problem, fuck up with y'all, I'm just a broken soul.
I'm fucked up, I know that I need help, I'm so sad. My best friend, this lap hat, my lover, my left hand. I done slammed, I done banged myself up, I'm deranged. I know I'm really strange, I know I'm not the same as I was to you then, like I am to you now. Understand, this ain't how I want shit. You ain't fucking with me clearly. I'm so villain going grizzly. In my head I feel so dizzy.
I don't need your pity, please leave me alone. I've been feeling feelings that I don't condone. Feeling like I'm about to break my fucking phone. All these followers are on me.
No trust, I'm jaded, you got it, I'm faded. I'm standing here wasted on Snapchat, I'm naked. I just slammed, I done banged myself up, I'm deranged. I know I'm really strange, I know I'm not the same as I was to you then, like I am to you now. Understand, this ain't how I want shit to go down. Are you really gonna screw me? Pull the trigger, go and do me. Feeling gloomy, I'm so loony. All this bullshit, where's the beauty?
I'm alone, still alone, I'm alone, still alone, I'm alone, I'm alone, still 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 alone, I'm
Votre univers, Paul B. Preciado, est très liquide, très sensuel, très poreux. Nous éprouvons beaucoup de plaisir à lire vos écrits, exactement comme cette chanson qui paraît si sensuelle et qui est en même temps qui paraît offerte et simple, mais qui en même temps est très samplée avec différents niveaux sonores. Pourquoi ce choix ?
Parce que Mickey Blanco est un des chanteurs noirs contemporains, en fait, qui a eu le courage de dire qu'il était gay, en fait, dans sa milieu du rap, qui est extrêmement homophobe, en fait. Et voilà, il est extraordinaire, il est pas simplement gay, mais il est totalement queer, il est criss-cross, comme on dit, en fait. C'est-à-dire, justement, il est dans la traversée.
Et vous êtes contrebandier entre les deux sexes et pas appartenant ni à l'un ni à l'autre?
Oui, parce que je ne crois pas justement à la différence sexuelle. Je pense que la différence sexuelle est un régime politique, est un régime, j'ai dit, une épistémologie visuelle. Il a été créé, inventé, justement, tout au long de la modernité, mais surtout entre les 17e et le 19e siècle. Et oui, c'est un régime très fort, c'est un paradigme scientifique et des pensées, aussi fort qu'elle était, par exemple, en fait, à l'époque au Moyen-Âge, en fait, l'idée selon laquelle les soleils tournaient autour de la Terre, par exemple. Donc c'est vraiment, c'est un paradigme, en fait, avec tout un ensemble des discours, des institutions, des conventions et des normes qui vont avec. Et évidemment, aujourd'hui, quand on dit la différence sexuelle n'existe pas, je ne crois pas à la différence sexuelle, bah évidemment, on est considéré comme un hérétique.
Il faut bien une reproduction, il faut bien des naissances.
Tout à fait, mais la reproduction n'implique pas, en fait, la différence sexuelle. C'est-à-dire que, par exemple...
Maintenant, à cause des innovations technologiques et des médicales et de la procréation et de la PMA.
Non, pas uniquement maintenant. C'est-à-dire que, par exemple, en fait, un corps, justement, c'est ça qui est intéressant avec les corps. Je pense que c'est la radicalité du corps vivant en tant que vivant, avec toutes ses possibilités, qui est importante. C'est-à-dire que peut-être la période pendant laquelle un corps peut être fertile et donc être reproductrice ou reproducteur, bah être très courte. Ça sera en fait quelques mois pendant, ou quelques semaines pendant les mois, ou même quelques années tout au long d'une vie. Mais en fait, par exemple, l'assignation des différences sexuelles s'est faite à la naissance, justement pour penser à la gestion politique de vos organes et vos cellules. C'est-à-dire qu'on va penser, à partir du moment où vous êtes né, que vous êtes surtout un utérus ou surtout producteur de sperme. Et à partir de là, il y aura toute une différenciation sociale et politique qui vient avec. Et alors que vous êtes toute autre chose aussi. C'est-à-dire que moi, ce que je réclame, c'est la catégorie du corps vivant en tant que vivant, bien au-delà de la force du travail et la force reproductrice. Puisque évidemment à partir des moments par exemple en fait que vous vos organes génitaux ou votre utérus ou vos ovaires par exemple ne sont pas reproductrices ou reproducteurs, est-ce que vous êtes encore une femme? Vous le restez socialement, mais en réalité vous êtes sorti de l'hétérosexualité normative.
Alors à l'intérieur de votre propre corpus, Paul Preciado, vous utilisez différents registres, la philosophie, l'histoire. Vous êtes très féru d'histoire et d'histoire de la sexualité et vous en parlez admirablement, mais vous croisez aussi la discipline de l'anthropologie. Je vous propose d'écouter une grande anthropologue qui a innové dans cette manière de considérer la différence sexuelle. Je veux parler de Françoise Héritier. Nous allons l'entendre à propos de ses deux ouvrages, Masculin, Féminin 1, Masculin, Féminin 2, Archives INA, 4 mars 1996.
La chose extrêmement importante, c'est la chose suivante, c'est qui nous différencie de l'animal, c'est l'obligation de donner du sens et la capacité de donner du sens à ce que nous voyons, à ce que nous vivons, à ce que nous entendons, à ce que nous comprenons. Et donc cette obligation de donner du sens, elle porte déjà sur le sens donné au corps, à son propre corps et au monde dans lequel il est plongé, et aux autres corps qui participent de ce même monde, si je puis dire. Et alors, à ce moment-là, il se trouve que la pensée classe nécessairement les choses, essaye de les ordonner, de les comprendre, et se produit une distinction primordiale, et celle effectivement de l'identique et du différent. Si le regard que porte cet homme sortant de l'animalité sur son corps et le corps de ses congénères est le premier, il va observer des similitudes. On a deux yeux, un nez, des oreilles, etc. Nonobstant les petites différences de détails, la couleur ou la forme, mais des similitudes et deux ou trois différences, celles-là qui sont irréfragable. On ne peut rien faire, on ne peut pas aller, irrécusable. On ne peut rien faire avec elle. Il faut s'en accommoder, mais ce sont des différences fondamentales. C'est les différences anatomiques visuelles, visibles, à savoir les sexes, la différence des sexes, et puis les différences physiologiques, c'est-à-dire l'émission de liqueurs particulières, de liquides particuliers. Alors le sperme pour les hommes, le lait pour les femmes, et le sang, avec cette différence fondamentale, que les hommes peuvent voir leur sang couler, mais à ce moment-là, c'est à la suite de violences, tandis que les femmes le voient couler de façon passive, elles le subissent. Et alors, il y a en plus cette différence inouïe qui est la capacité proprement féminine de donner la vie, de reproduction.
Alors, que pensez-vous des théories de Françoise Héritier, Paul B. Preciado? Et pensez-vous qu'aujourd'hui, cette différence sexuelle irréfragable qui a constitué l'ordre réel et aussi symbolique de notre humanité peut changer?
En fait, j'ai beaucoup lu en fait Françoise Héritier, évidemment, et j'apprécie beaucoup aussi la personne, j'appréciais la personne qui était vraiment extraordinaire, mais elle savait aussi que je n'étais pas d'accord avec elle, du tout. Parce que justement, déjà en fait sur la différence humain-animal, je ne suis pas d'accord avec elle, puisque je pense que justement elle, c'est une anthropologue, je dirais en fait, de la raison occidentale, et aussi de la raison quelque part, je dirais, coloniale, malgré tout. Par contre, on sait bien qu'il y a des cultures dans lesquelles ces distinctions nature-culture, animal-humain, ne fonctionnent pas. Philippe Descola et d'autres en fait le montrent bien, et eux aussi des cultures, y compris la nôtre, qui n'ont pas du tout en fait pensé à la différence sexuelle de la même manière que le discours scientifique le a fait à partir du XVIIe siècle. C'est-à-dire que justement jusqu'au XVIIe siècle, il n'y a qu'un seul sexe, le sexe masculin, et justement on ne pense pas en fait aux femmes comme celles qui sont dans la vie. Celui-là qui est dans la vie, c'est les sexes masculins, c'est les pères, et c'est justement les spermes qui est porteur de la vie. Alors que les femmes sont simplement, en fait, si vous voulez, un lieu dans lequel, en fait, un continent, un espace...
Un réceptacle.
Un réceptacle, exactement, dans lequel, en fait, plus ou moins, en fait, on va mettre au point ce processus de gestation. Donc ça, c'est extrêmement complexe, parce que je pense qu'effectivement, on est aujourd'hui dans un moment de transition. Pas uniquement que je suis pas, c'est pas moi toute seule en fait que je suis en transition, mais qu'on est dans un moment de transition planétaire.
Vous avez vu, hein, vous avez dit toute seule.
Oui.
Vous n'avez pas dit tout seul.
Non, ça peut m'arriver aussi. C'est aussi les Français, parce que voilà, quand je parle dans des langues différentes en fait, et aussi ça peut arriver en fait que ma tête en fait parte comme ça dans des sexes différents en fait, y compris quand je parle à d'autres gens en fait, que souvent je traite en féminin s'ils sont hommes, en masculin si c'est des femmes, etc. Donc voilà, ça peut effectivement m'arriver, mais je pense en fait justement qu'on est dans un moment de transition, et que bientôt peut-être en fait, si on va voir justement, quels sont les processus de transformation politique? Parce qu'en tout cas, l'histoire nous apprend, c'est que justement, on n'arrivera pas à avoir une transformation épistémologique, c'est-à-dire une transformation des régimes de vérité, des régimes de représentation, si on n'a pas en même temps une transformation politique. Et donc, une transformation des rapports de pouvoir. Et ça, c'est plus complexe. On voit exactement cette difficulté lors des derniers mouvements, en fait, MeToo ou autres, en fait, vraiment la résistance extraordinaire, justement, à tout moindre mouvement des transformations politiques. Donc, c'est pour ça que je pense que les siècles à venir est un siècle absolument fondamental, aussi bien, en fait, des points de vue des transformations écologiques, qui sont urgentes, mais aussi, en fait, des transformations des représentations des processus de gestion de la reproduction. des reproductions de la vie. Parce que vraiment, la question de la vie va être au centre des, aussi bien des transformations politiques que philosophiques dans les dernières, enfin, dans les prochains 20-30 ans, de manière très, très importante et éminente.
Votre pensée intéresse beaucoup de personnes, pas seulement en France, dans d'autres pays, en Europe, mais aussi aux États-Unis. Nous avons demandé à Laure Murat, qui a écrit plusieurs livres sur la sexualité, son dernier c'est sur MeToo et les conséquences de MeToo, et qui enseigne actuellement à l'université de Los Angeles, de nous dire ce qu'elle pensait de votre dernier ouvrage, et je crois qu'elle aussi, elle a une question.
Ce que j'apprécie en particulier chez Paul Preciado, c'est sa façon d'être au carrefour de plusieurs disciplines, de plusieurs façon de penser. Et d'ailleurs, je pensais à ça en me disant qu'aux États-Unis, par exemple, on est très obsédé par ce qu'on peut appeler l'interdisciplinarité, la multidisciplinarité, la pluridisciplinarité. Et au fond, je pensais surtout à la transdisciplinarité, forcément, pour des raisons évidentes. Le préfixe trans est un désignant à la fois quelque chose qui est entre, à travers, et au-delà. Et je trouve que dans la pensée de Paul Preciado, on a tout ça parce qu'il nous parle de sa vie, de son corps, de ses transformations, de son regard sur le monde, et sur un monde qui est déjà très international, qui est très divers, qui est très variable aussi, même si l'ennemi numéro un, c'est évidemment le capitalisme néolibéral, le patriarcal qui opprime les corps. Mais la façon dont il mélange à la fois des références théoriques et une expérience qui est constamment présente, c'est-à-dire qu'on est très au-delà, pour reprendre un des termes du préfixe, on est très au-delà de quelque chose qui serait au carrefour, mais qui mélange à la fois, pour aller vite ou simplement, la théorie et la pratique. Et on est dans l'expérience, on est dans une vie concrète, actuelle, qui donne en même temps un espoir, même s'il y a beaucoup de mélancolie dans ce qu'il écrit. Il y a aussi un espoir, il y a la vie demain. Et ça me plaît particulièrement. Entre autres choses, j'ai lu ces deux livres, je lis ces chroniques dans Libération en particulier, enfin très très régulièrement. Et donc parmi les questions que j'aurais à poser à Paul Preciado, il y a quelque chose qui moi me touche particulièrement, c'est son rapport érotique à la ville. Que ce soit Athènes, que ce soit Venise, que ce soit Paris, que ce soit Barcelone ou des villes asiatiques. Et je trouve qu'il parle de cela comme très peu de gens, parce qu'il y a très peu de gens qui arrivent à capter ces vibrations de la ville et d'en faire un objet vraiment érotique. Et j'aurais aimé savoir s'il a l'intention de consacrer un livre à cette question qui, moi, me touche très particulièrement. Je crois que c'est Solers qui a une formule et qui dit « quand je veux lire un livre, je l'écris ». Mais là, j'aimerais bien que ce soit Paul Preciado qui l'écrive.
Eh bien, voilà. Voilà un nouveau livre qui va peut-être surgir de votre imaginaire, Paul B. Preciado. En tout cas, dans un de vos chapitres de votre nouveau livre, il y en a un qui s'intitule « Aimer une ville ». Et je vous cite « Je suis tombé amoureux d'une poignée d'humains, de 5 animaux, d'une centaine de livres et d'œuvres, d'un musée et de 3 villes. »
C'est vrai. C'est évidemment, je crois que tout le monde a fait l'expérience, pas uniquement moi. C'est-à-dire, on parle d'amour quand on parle d'une personne, mais je pense que ça, c'est totalement réducteur. Encore une fois, je pense qu'on est, c'est une espèce d'anthropomorphisme. Moi, ce que je voudrais, en fait, à tout prix, c'est justement radicaliser ma condition de vivant. Et justement pouvoir, y compris en fait, éclater l'humain. Et donc, du coup, mais je pense que ce n'est pas uniquement moi. Je pense qu'on a fait tous cette expérience de tomber fou, amoureux, d'une chanson, d'une œuvre d'art, d'une ville. d'un lieu particulier, d'un appartement aussi, d'une maison, d'un paysage. Donc je pense que oui, et que ça c'est les propres, je dirais en fait, quelque chose qui m'intéresse beaucoup en fait justement. Qu'est-ce que serait un amour, une forme d'amour non humaine, dans lequel justement, parce que le problème c'est que notre spécialisation en tant qu'espèce justement, en tant que les spécialisations politiques, nous a conduit vraiment à réduire au maximum notre capacité de sentir, de percevoir, d'aimer aussi. Et donc je pense que si on veut par exemple une révolution écologique, il va nous permettre, il va nous falloir justement de ré-érotiser les mondes en totalité, tomber amoureux à nouveau de la totalité de la planète.
Vous êtes en devenir et vous prenez des risques pour ne pas être assigné à aucune identité. Comment voyez-vous l'avenir ?
C'est-à-dire que, je vous dis, j'oscille en fait. C'est-à-dire j'ai des moments de grande détresse, alors qu'avant j'étais vraiment d'un optimisme pathologique. Maintenant, j'ai des moments vraiment de, je dirais pas peur en fait. Peur c'est jamais mon affect à moi, mais par moments suis inquiet, surtout par exemple en fait par rapport à la destruction culturelle d'Europe maintenant, la destruction aussi de la planète. C'est-à-dire ce qui m'inquiète justement c'est l'extension de la nécropolitique, l'extension des techniques de la mort, des techniques de violence comme seule relation possible au monde et aux autres. Et ça c'est assez difficile en fait à changer et à maîtriser. Mais sinon je pense que au contraire, moi je pense que je suis assez optimiste aussi, parce que je pense justement qu'on va vers cette transformation profonde, ces changements des paradigmes. Et donc j'aimerais bien en fait, mais je sais que ça va pas arriver, mais j'aimerais bien savoir en fait qu'est-ce qui va arriver par exemple dans 150 ans en fait, quand effectivement l'épistémologie de la différence sexuelle va être transformée et changée, peut-être par une épistémologie à plus de sexe, hein, ou peut-être même par une épistémologie non sexuée, radicalement non sexué et radicalement par exemple non racialisé. Mais ça c'est voilà, c'est une utopie politique aussi.
Dernière question, vous étiez Béatrice, vous êtes devenue Paul, vous nous racontez dans cet ouvrage à quel point ça a été compliqué et c'est compliqué aujourd'hui d'être devenu un homme et que c'est pas drôle tous les jours. Avez-vous envie de faire le voyage dans l'autre sens ?
Revenir ?
Oui.
Pour l'instant non. Mais mes connaissances, ça pourrait m'arriver. Hein. Je me dis pas que c'est totalement impossible. Mais en même temps, dans mon goût de voyage interplanétaire, je pense que ça serait toujours encore autre chose.
Et sur Uranus, vous serez justement. Paul ou vous serez Béatrice ?
Je pense que peut-être je serai, c'est pas, batterie ou un vent, ou je sais pas. Ou simplement une molécule, quelque chose comme ça.
Ben merci en tout cas. Merci pour ce que vous êtes, merci pour ce que vous nous apportez, merci pour ce que vous écrivez. Votre dernier livre s'intitule « Un appartement sur Uranus » et il vient d'être édité aux éditions Grasset. Et on va se quitter avec Christine. Petit clin d'œil, Christine and the Queens.
Oui, merci.
Même si personne ne se laisse aimer, je désire ce qui tremble, qu'aucune journée ne se ressemble. Je dis ça pour que tu comprennes. J'attendrai pas que la tendresse vienne, je l'ai mouché jusqu'au sang, ma timidité d'adolescent. Fou. salive. Je suis ici, tu vois, tout arrive. Je ne cesse de réclamer, plus forte d'être tes visages. Et quand j'aurai enfin désobéi, je serai menaçante moi aussi. Au coffre, chameau marqué, machine de guerre aux yeux mouillés.
Merci à Serge Viguier qui était à la technique ce soir. Merci à Jean-Baptiste Dibert pour ses conseils musicaux. Merci à l'équipe, Élodie Royer, Anne-Sophie Dazard et Pierre Dindy. Et merci à Lilian Allôme qui, comme chaque soir, a réalisé cette émission. Et après le prochain journal de la rédaction, eh bien, vous avez rendez-vous, comme chaque soir, avec l'ami Mishka pour la suite de son Very, Very Good Trip.